Les choses ont changé. En un seul jour, un seul instant. Le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé. Ni foule, ni bain de sang. Et pourtant, il y a bien eu une révolution. Si j'essaie de reconstituer les événements, de me souvenir de ce que j'ai vu, d'imaginer ce que je n'ai pas vu, je dirais que les choses se sont passées à peu près comme ça.
L'apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquard-Morel et Sophie Maurer.
L'apocalypse est notre chance. Septième épisode.
J'avais été agressée, tasée, et on m'avait volé les archives de Luc Payron, mon directeur de thèse. Quand elle a appris ça, Christine Collat l'a très mal pris.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui vous les a volés?
Je sais pas.
Vous avez porté plainte?
Non, ça servirait à rien.
Continuez de me mentir comme ça, Laura, et vous n'aurez jamais de poste. Ni ici, ni ailleurs. Vous m'entendez?
Pendant ce temps, François Boiron, l'homme de l'Élysée, avait trouvé une nouvelle cible.
Tu te souviens du professeur Nel Frégo? Une collègue de Luc Payron.
Oui, tu avais cité son nom.
On est quasiment sûr aujourd'hui qu'elle est l'une des têtes pensantes du groupe.
Comment peux-tu me dire ça et en même temps être incapable de savoir avec précision ce qu'il projette?
C'est la beauté et la misère du numérique, François. On trouve plus facilement qui que quoi.
C'est déjà bien de pouvoir identifier une nouvelle cible.
Tu vas faire quoi?
C'est pas de ton ressort.
Boiron avait rappelé son homme de main.
La ligne est claire, monsieur.
Votre prochaine cible s'appelle Nel Frégo.
Où?
Même lieu que le professeur.
Âge?
48 ans.
Des éléments personnels?
Deux ados de 15 et 17 ans, un mari qui est le plus souvent en déplacement, une sœur jumelle en phase terminale d'un cancer. Sinon, une vie d'universitaire qui se consacre à ses recherches et à ses étudiants.
J'agis directement ou vous attendez qu'elle vous livre quelque chose?
Je doute qu'elle vous réponde, mais voyez quand même si elle est prête à vous donner le nom du leader de leur groupe. Auquel cas, vous me prévenez.
Si elle ne parle pas?
On laissera entendre qu'elle était déprimée par la maladie de sa sœur.
Quand?
Je vous le ferai savoir.
Je serai prêt, monsieur.
J'avais bossé sur ma thèse comme une brute. À 3 heures, je ne dormais toujours pas.
Tu dors?
Non.
Je peux te parler?
T'as de la chance que je sois pas avec Gwendoline.
Je la connais.
Une grande rousse d'1m75 avec des jambes plus grandes que moi. Je l'ai pas encore rencontrée, mais ça ne va pas tarder. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça me bouffe la tête de me demander qui m'a agressée. Qui nous a volé les documents de Luc, pas toi?
À ton avis?
Je suis sûre que c'est la mère Cola.
N'importe quoi.
Elle a du fric et du pouvoir. Elle peut payer des gens. C'est elle qui voulait ces documents.
Oui, à des fins de publication.
Tu le défends toujours.
J'ai sommeil.
Mais merde, Vincent! Les mecs qui m'ont agressé, c'est forcément des gens qui savent ce que contiennent les documents de Luc et qui cherchent à empêcher leur diffusion, t'es d'accord?
Sur ça, oui. Mais comme on n'a pas pu accéder à la plupart des fichiers...
Et la seule qui a réclamé ces documents, c'est qui? Hein?
Justement. Christine Collat les a réclamés. Quand on est prêt à commanditer ce genre d'agression, généralement, on ne demande pas avant.
C'est vrai. Mais qui alors?
Ça peut être n'importe qui de puissant et d'organisé.
L'État?
Ou des gens que Payron a interrogés dans le cadre de ses recherches. Des financiers, des politiques. Peut-être des gens qui ont pris du pouvoir entre-temps et qui peuvent craindre qu'on révèle des choses sur eux ou sur leur compte en banque.
Qu'est-ce qu'on fout là-dedans, nous?
On essaie de faire profil bas en attendant que ça passe. Allez, je suis crevé, j'éteins. Bonne nuit.
Au même moment, Agnès Wims et Bruno Kwaranski cherchaient le moyen d'accélérer les choses depuis leur QG.
On a commencé hier à 20h. En extrapolant, l'ensemble du processus va prendre 40 heures.
C'est trop.
Si on veut être sûr de ne pas être devancé, il faut descendre à 10-12 heures. 15 max.
Qu'est-ce qui nous ralentit?
À part mon incompétence, vous voulez dire?
Ou celle de vos équipes, oui.
On a des bugs sur une partie des équipes latino-américaines.
Changez-en.
C'est en cours. Mais on a d'autres problèmes. Des intrusions qui ne fonctionnent pas sur certains serveurs en Asie. Des soucis de millisecondes sur la fibre transatlantique.
Je croyais qu'on avait une marge.
Je préférais pas compter dessus. Sur d'ici, c'est encore trop lent. On est en train d'élaborer une réponse en bidouille. On n'a pas le choix, c'est le premier domino.
Ok.
Ça
passe crème.
Avec
monsieur.
Arrêtez les simulations.
Mais...
Vous arrêtez, je me fie à vos prévisions.
Faut qu'on aille au bout de l'exercice, c'est la seule façon d'avoir une vision claire des risques.
Pas le temps. Vous trouvez la parade au problème de l'attaque sur d'ici. Vous changez les équipes partout, c'est nécessaire. Pour l'Asie, passez par le japonais, le gérant en direct. Tant pis.
Ok.
Une fois que c'est fait, vous recommencez.
Ça coûte très cher. Surtout si on change les équipes.
Vous vous démerdez. Vous pouvez le faire.
Oui, je peux tirer ce que je veux. Mais aussi près de l'opération, c'est un risque supplémentaire.
On n'a pas le choix. Ne discutez pas.
Ok. Luc n'aurait pas fait ça.
Luc n'est plus là.
Ce jour-là, Vincent et moi n'avions pas cours. Pour une fois, je l'ai accompagné faire les courses.
Tu ne fais pas penser à Timothée, le mec là-bas?
Ah si, t'as raison. Au secours. Je l'avais quasiment oublié, celui-là.
À chaque fois que je repense à lui, je me marre. C'est plus fort que moi.
Ouais, c'était pas l'idée du siècle, c'est sûr. Mais si tu veux qu'on parle de Léa, pas de soucis.
Oh, ça va.
C'est quand même la plus grande ânesse avec qui tu sois sortie.
C'est vrai. Pourtant, c'est pas faute d'avoir largement donné dans ce créneau.
Ah, j'ai rien dit.
L'idiotie me rend dingue, que veux-tu?
Ça devrait m'interroger?
Mais non. Toi, t'es mon quota Mensa. Quand les ânesses te voient, ça les insécurise que je vive avec une tête, et après, hop, je récolte les fruits de leur insécurité. C'est très pratique.
Parce que t'es con. Dis, j'ai pensé à ce que tu m'as dit cette nuit. T'as raison. Christine Collat peut pas être responsable de tout ce qui est arrivé. C'est pas possible. En plus, comme présidente, elle doit être plutôt emmerdée par la mort de Luc.
Te voilà bien raisonnable. T'es malade?
Du coup, je me dis que j'ai pas été très diplomate avec elle.
C'est un euphémisme.
Je vais essayer de me rattraper la prochaine fois. En plus, si je suis honnête, elle a l'air vraiment intéressée par ma thèse. J'ai plus qu'à m'y mettre.
Elle commence pas à faire ton rétro-planning. Bonjour, messieurs.
Bonjour, messieurs dames.
Bonjour.
Alors, tu veux quoi? Rose beef ou filet mignon?
Filet mignon. Combien de jours t'avais pris pour l'intro? Je me souviens plus.
3 semaines. On va vous prendre 800 grammes de filet de mignon de porc, s'il vous plaît. Quand je dis 3 semaines, c'est 3 bonnes semaines.
Et la conclusion?
5 jours et 3 jours pour la biblio.
904, c'est
rare. Ouais, très bien. Ça sera tout, merci. Le pignon, je sais pas si tu te souviens, ce sont les notes, en fait. Pardon? C'était à devenir dingue, les notes. Mais je t'aiderai. Et puis je connais des logiciels qui peuvent faire une partie du boulot de mise aux normes. Tenez. J'ai un logiciel de correction qui repère des trucs invraisemblables, des parties assez foireux, des fautes d'accord calamiteuses, enfin tout ce qu'on voit pas quand on a les yeux.
Merci beaucoup.
Allez, bonne soirée.
À vous aussi, au revoir.
Au revoir. Tu sais, même si je fais confiance à Christine, sur le plan scientifique, ça va quand même être compliqué. Son champ de recherche est vraiment trop loin du mien. Ce serait pas mal d'avoir un deuxième relecteur. Je veux dire, en plus de toi.
T'as pensé à quelqu'un?
Je me suis dit que j'allais tenter ma chance auprès de Nelfrigo.
Laura, pas elle. Prends quelqu'un qui était pas lié à Luc. Quelqu'un d'extérieur à la fac, même, si tu veux. Tu connais bien un ou deux profs ailleurs à qui tu peux demander.
J'ai déjà pris rendez-vous avec Frigo. Je vais y aller. De toute façon, il y a 2 chances sur 3 pour qu'elle dise non.
Willy et Sabine étaient à la cafétéria de l'université.
Oh.
Comme chaque midi.
Allez, Willy, dis-moi où t'as dormi.
Mais non, tu serais jalouse.
Si t'avais une copine, j'arrêterais de me faire du souci pour toi.
T'inquiète pas pour moi. Le monde est rempli de bienfaiteurs et d'amis.
T'as pas répondu à ma question. Allez, je suis ta pote, dis-moi, t'as dormi où cette nuit?
Hé, hey, Oli.
Ah, bah voilà, un ami justement. Tu m'excuses, hein.
Tu veux quoi comme sandwich?
Ton poulet.
Mais y'a pas.
Salut, man.
Otoyate.
Ok, je te prends les deux.
On t'a attendu toute la servir.
Ah, je suis désolé.
Mais pourquoi t'as pas venu? T'as au port?
Mais non.
T'as dormi où?
J'ai dormi avec les oiseaux.
T'as dormi dans le square?
Ah, t'es trop fort, toi, comment t'as deviné?
Tu sais mauvais, tu sais le caca de chien.
Vas-y, arrêtez de foutre de ma gueule, tu sens que je... Sérieux, je sens mauvais? Putain, faut que je trouve une douche.
T'as vraiment dormi?
Mais oui, j'ai vraiment dormi. J'ai passé la meilleure nuit de ma life, tu vois, une nuit de rêve. Tu peux pas rêver mieux. D'abord, il y a un groupe de cons qui est venu massacrer de la country à un mètre de ma tête. Après, juste au moment où j'étais enfin calé dans mon duvet, là, il y a un gros clochard des familles, tu vois, il vient, il se pose sur moi, normal. Et à la fin, les flics sont venus me réveiller alors que le jour, ils se levaient à peine, ils m'ont foutu dehors.
Écoute, mon plan, c'est risqué.
Ouais.
Mais t'as pas froid et personne vient t'embêter.
Ouais, bah, il y a quand même un vigile et un chien, non?
Ouais, bah, écoute, on se donnait un rendez-vous à 22h. Mais ce soir, on t'attend pas.
Ouais, non, j'ai compris, 22h. Mais tu m'as pas répondu, mec, il y a un chien.
Bah, t'inquiète, ouais, c'est un chien, mais t'inquiète, je suis là.
Bah, t'inquiète, t'es malade ou quoi? Moi, j'ai peur des chiens, tu me défends.
Tiens, mange.
Ah, merci, copine. Eh, j'en ai trop la dalle.
Et ce soir alors, tu dors où?
Le soir? Chez son cousin, c'est ça, il passe les clés de l'appartement là. Il a un chien, il est trop bien son chien apparemment, du coup je vais le rencontrer. Voilà.
Ok.
Boiron avait obtenu de Christine Cola qu'elle le reçoive en urgence.
Je vous sers un café?
Non merci, je n'en ai pas pour très longtemps.
Je vous écoute.
Laura Vanetti a été contrainte de livrer des documents de Luc Bayron. Sans doute au groupe sur lequel nous enquêtons.
Mais dans ce cas, ce n'est plus mon problème. Vous surveillez cette étudiante comme vous voulez et la vie de mon université continue comme si de rien n'était.
Il faut que vous compreniez, Christine. Sur cette opération, je ne peux pas procéder avec les moyens habituels, a fortiori dans le sanctuaire d'une université.
Vous osez me parler de sanctuaire?
Pour vous situer les choses. Aucun des services officiellement chargés de la sécurité intérieure n'est au courant de cette affaire.
Vous voulez dire que ça dépend d'un service clandestin?
Cela dépend de 10 personnes. Vous êtes la 11e.
Je ne comprends pas.
Il y a quelques mois, nous avons perdu la trace d'un groupe de hackers que les services de l'ANSSI surveillaient étroitement. Des hackers de haut niveau. Ils se sont littéralement volatilisés. Luc Bayron était en contact régulier avec eux.
Sans doute à des fins de recherche. Luc avait un esprit curieux de tout.
Dans la foulée de cette disparition, nous avons pu observer des intrusions sur de grosses bases de données européennes.
Quel type de base ?
Des bases financières.
Les banques, la bourse, c'était la spécialité de Luc. Donc, ça confirme ce que je vous dis, ça devait être pour ses recherches. Je ne vois là rien d'inquiétant.
On a tout lieu de s'inquiéter, au contraire. L'association de ce groupe de hackers et de plusieurs universitaires de haut vol ne peut rien présager de bon. On craint un hold-up d'une ampleur jamais vue, ou un chantage à grande échelle dont on ignore quelle serait la rançon.
Luc Bayron n'était pas intéressé par l'argent. Pas au sens où vous l'entendez, en tout cas. Je ne vois pas du tout impliqué dans quoi que ce soit de ce genre.
On peut faire chanter pour bien d'autres choses que l'argent, vous ne l'ignorez pas. Et ce ne sont que des hypothèses pour le moment. On n'est certain de rien, sinon du fait qu'il menace les intérêts de groupes importants, de groupes qui ont les moyens d'exiger de l'État qu'il les protège, si vous me suivez bien. Écoutez, Christine, j'ai une proposition à vous faire. Arnaud Gabel est sur le point d'atteindre l'âge de la retraite. Le ministère s'interroge actuellement sur sa succession. J'ai pensé à vous.
Ah ? Mais encore ?
Je ne pourrai vous soutenir que si je suis moi-même dans les bonnes grâces du château. Aidez-moi. Essayez de découvrir ce qui se trame au sein de votre université. Nous avons une porte d'entrée qui est cette Laura Vanetti. Nous savons que d'autres professeurs étaient liés à Luc Bayron et font partie de ce réseau. Trouvez qui ?
À peine sorti de l'université, Boiron téléphonait à son homme de main.
Vous pouvez parler, monsieur.
Vous êtes en place ?
Affirmatif. Elle est en présence d'un visiteur pour le moment.
Vous attendez qu'elle soit seule et vous pouvez procéder.
Bien, monsieur.
Inutile de préciser que vous n'avez pas le droit à l'erreur.
Bien sûr.
Au même moment, Nel Frégo me recevait dans son bureau.
Bonjour.
Entrez.
Asseyez-vous, aussi.
Qu'est-ce que vous regardez?
Le tableau. Luc avait le même dans son bureau.
On a acheté à peu près le même ensemble lors d'un congrès à Mexico. Mais vous n'êtes pas venu me parler de Luc, j'espère?
Non, je voudrais...
Parce que si c'est le cas, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Je n'ai pas le temps d'évoquer le passé, j'ai moi-même d'autres soucis.
Pas du tout, je comprends. Je suis venue pour ma thèse. Uniquement pour elle. Mon sujet de
je
thèse...
Je connais votre sujet.
J'apprécie beaucoup l'attention que me porte Madame Cola... Mais elle ne connaît rien à la sociologie économique. Son champ de recherche n'a rien à voir avec le mien.
J'ignorais même qu'elle en avait encore un. Je ne sais pas de quand date sa dernière publication.
2009, et c'est très loin de mon sujet. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Je voulais vous demander si vous accepteriez de diriger ma thèse de façon officieuse. Épistémologiquement, vous êtes le professeur qui se rapproche le plus de mon champ de recherche.
Je suis navrée. J'aurais beaucoup aimé vous aider, mais j'ai beaucoup trop de choses à faire en ce moment.
Je vous en prie. J'ai pris beaucoup de retard après la mort de Luc. Et j'ai besoin de votre aide.
Je ne peux pas nier que je suis curieuse. Luc était très confiant dans votre travail. Il m'en avait parlé. D'un autre côté, j'ai vraiment pas le temps.
Est-ce qu'au moins vous accepteriez de lire mon plan ?
Que ce soit bien clair. Vous n'obtiendrez de moi aucun renseignement sur votre ancien directeur de thèse.
Ce n'est pas ce que je recherche.
Willy avait le don de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Comme de s'adresser à l'homme de main de Boiron dans un couloir de la fac.
Excusez-moi.
Quoi ?
Vous êtes de l'administration ? Non, parce que je voulais signaler un problème sur les toilettes hommes de l'étage. Mmh. On est habitué à ce que ce soit pas tip-top, mais là, ça fait à grand dos.
Je travaille pas ici.
Ah, pardon. Vous êtes étudiant ? Excusez-moi, c'est l'âge. C'est vrai, il y a un vieux aussi dans mon TD. Enfin, un vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il pose souvent des questions à côté de la plaque qui consiste surtout à parler de lui, mais on se dit que
c'est. Je vais devoir vous laisser.
Ah, ok. Bah, pour les sanitaires, si vous voyez un autre vieux, un autre adulte, vous pouvez lui transmettre. Merci.
Nel Frégo avait accepté de lire mon plan. En sortant de son bureau, merci. J'étais soulagée.
Je vous envoie un message quand j'ai lu. La semaine prochaine ou plus tard.
C'est parfait, merci encore. Pardon, excusez-moi.
Pas de quoi.
Pardon, Laura. Pardon, madame.
Monsieur Nasser, vous allez bien ?
Ouais, non, enfin, j'ai rien compris à votre dernier cours, le truc du robot sujet objet machin. Je suis désolé.
Vous voulez parler de la théorie du cyborg ?
Ouais, c'est ça.
On va reprendre ça en TD.
Ramona était entrée dans le bureau de Nel Frégo.
Rangez cette arme. Je vous attendais.
Ça m'étonnerait.
Disons que je me doutais que vous risquiez de me rendre visite, un jour ou l'autre.
Alors je vous la fais courte. Si vous me donnez le nom de votre chef, j'appelle le mien.
Qui est-ce ?
C'est moi qui pose les questions. Son nom. Maintenant.
Asseyez-vous.
Willy m'avait tenu la jambe dans les couloirs jusqu'à l'entrée de la salle de cours.
Bonjour. Dites-moi, monsieur Nasser, je peux vous poser une question indiscrète avant qu'on entre ?
Ah, alors là, tout ce que vous voulez.
Vous êtes en plein déménagement ou je me trompe ?
Ah oui, non, j'ai pas trouvé que ça m'a pendri en ce moment. C'est pas terrible ce pull orange, hein, je suis d'accord. Bon, en plus, il pue un peu, non ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Une étudiante qui a eu 2 sur 20 ?
Mais non.
Ou alors une qui vient de marcher sur son portable ? C'est quoi ?
Bon, vous entrez et vous installez rapidement, s'il vous plaît.
Je sais pas. Bizarre.
J'ai commencé mon cours en essayant d'oublier le hurlement.
Un de vos camarades vient de me dire qu'il avait eu des difficultés à comprendre la théorie du cyborg, développée par Donna Haraway. Est-ce que vous êtes plusieurs dans son cas ?
Oui.
Très bien. Le texte de la semaine va nous permettre de revenir dessus. Qui l'a lu ?
En partie.
Qui a le texte ? Levez la main. Ok. Arrangez-vous pour vous partager un texte pour 3. C'est bon ?
Affirmatif.
On peut commencer ?
Madame, là, c'est bizarre, ça se trouve qu'il y a des zombies qui ont envahi la fac. Hein.
Les crétins, va savoir.
Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible.
Restez là, je reviens. Attendez.
Sur le parvis de la fac, c'était le chaos.
Willy, vous avez vu, qu'est-ce qui se passe ?
Je vous conseille de pas y aller, c'est gore.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est Madame Frégo. Il paraît qu'elle s'est jetée par la fenêtre de son bureau.
Nel Frégo ? Elle est morte ?
Zéro doute.
Thank you.
L'Apocalypse est notre chance. De Sylvie Coquart-Morel et Sophie Maurer. 7e épisode. Avec Tiphaine Rabot-Fournier, Guillaume Marquet, Slimane Niefsa, Hélène Alexandridis, Benoît Guibert, François Hatt, Sophie Doll, Carence Clavel, Flore Bablé, Jean-Claude Durand, Jackie Bondrin, Théo Combi-Lemaître, Jamy Mamed, Benoît Abraham Kremer. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière et Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Nicolas Debagraf. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Benjamin Habitant.
Extrait du journal de Luc.
8 avril. J'aime arriver quand la ruche dort encore. Je glisse le long des murs. Je rentre la tête dans les épaules, je détourne le regard en espérant repousser les tentatives d'abordage. Malgré cela, certains ne comprennent pas. À quoi sert de se lever à l'aube si c'est pour échanger des banalités devant la machine à café? Je commence à respirer lorsque j'ai refermé la porte derrière moi et que je suis assis à mon bureau. J'ai 3 heures pour écrire. Je m'encourage de façon ridicule en me disant, quasiment chaque matin, que ces 3 heures sont les plus importantes de ma vie. Ces 3 heures prennent la forme d'un chapitre ou d'un paragraphe ou encore celle d'un article ou de notes, des notes que j'égarerai la semaine suivante. Elles n'ont ni goût, ni odeur, ni temporalité. Quand j'arrive à leur terme, j'ai le sentiment qu'on m'a dérobé ces heures et qu'il serait équitable de me les rendre. J'ai sûrement le visage d'un homme outré. Je me rends à la machine à café. J'entends le brouhaha des étudiants qui arrivent ou qui errent. Je croise de nouveau, cette fois en étant consentant, un ami, un collègue. J'échange quelques mots, je bois du mauvais café. Ce sont d'autres preuves que le monde existe. Pour certains comme Christine, l'université est un lieu de pouvoir, un royaume miniature répondant à des règles singulières, avec son système de castes, ses courtisans, ses proscrits, ses affidés. Pour les doctorants, elle peut être une arène violente. Le combat prendra fin quand ils auront obtenu leur thèse avec les félicitations du jury à l'unanimité. Et s'ils ont de la chance, obtenu un poste. Pour d'autres, les 683 biatos au hasard, l'université ressemble à une usine avec ses milliers de noms, d'enseignements, ses plannings, ses salles, avec ce casse-tête permanent qui consiste à faire tenir dans les locaux 3 fois plus d'étudiants que ce qu'ils permettent en réalité d'accueillir. 200 toilettes à nettoyer chaque jour, 93 ampoules à changer, 5 salles dont le vidéoprojecteur tombe en panne en même temps, 27 000 pages à reprographier, 113 visites à l'infirmerie, 3 cafétérias, 4 bibliothèques, 760 000 documents imprimés, 27 000 abonnements électroniques, 240 événements culturels par an. Les habitants, 13 000 étudiants dont 4 000 boursiers, 2 800 étrangers, 59 nationalités, et cette ville qui compte la même population que, disons, les Sables d'Olonne, Fontainebleau ou Morlaix, doit tenir sur 35 000 mètres carrés. Au milieu de tout ça, les enseignants, fourmis ouvrières parmi d'autres, 750 enseignants-chercheurs, 1500 vacataires exploités et encore 1200 doctorants, dont 700 allocataires. Et tout ça vit et travaille et circule discrètement. Quasiment rien de ce qui s'y vit ne filtre à l'extérieur. C'est chez moi. Cet endroit est devenu pour moi au fil du temps une deuxième enveloppe corporelle intime et confortable. C'est pourquoi je suis toujours stupéfait et dérouté par ce qu'on en dit ailleurs et surtout par ce qu'on n'en dit pas. 1 477 000 étudiants à l'université. Transparent au reste de la société qui les a pourtant engendrés, car même les étudiants ont été des enfants, et ces enfants, si je ne me trompe, quelqu'un les a bien faits. C'est comme si, une fois bacheliers, ils disparaissaient dans le grand trou noir avec nous. De temps en temps, on voit passer un microscope au-dessus de la trappe. Le ministre qui nous observe n'est jamais le même. Il propose généralement qu'on lui rende davantage de comptes sur ce qu'on fabrique tous dans ce trou et sur l'état dans lequel il va retrouver ceux qui en sortiront. On essaie généralement de lui refermer la porte de la trappe au nez. Jusqu'au suivant. Transparent, d'accord, avec les moyens du bord, très bien, mais alors qu'on nous fiche la paix.